Très dangereux à l'heure du goûter. Alors, nous allons bien sûr aller trouver Abraham dans le texte de la Genèse, pour commencer. Hein? Dans la Genèse, c'est le premier livre de la Bible, c'est écrit par Moïse. Moïse avait une culture égyptienne, une culture très sophistiquée de la cour de Pharaon. Il avait de grandes connaissances, mais ce qu'il va écrire là, il ne l'a pas reçu à la cour de Pharaon. Il l'a reçu dans son peuple. Dans son peuple, en vivant avec son peuple. Et donc pendant 40 ans dans le désert, il l'a reçu pendant les 40 ans de désert sans le peuple, c'est-à-dire avec les moutons, le Jéthro, avec Séphora et avec certaines apparitions de l'ange éternel, du Christ, en fait. Alors, Abraham, ça commence toujours, c'est un chapitre clé, c'est Genèse chapitre 12. On peut dire que toute l'histoire de la foi est symbolisée par le chapitre 12 de la Genèse. L'Éternel dit à Abraham, Genèse chapitre 12, il ne gêne pas s'il court, tu sais, Henriette, il peut courir, c'est... Je pense pas, du moins qu'il ne crie pas trop fort. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il faut bien savoir que c'est un Irakien du Sud. C'est un homme éduqué avec des dieux, des statues, des grands temples, des sacrifices humains, l'astrologie, hein, et avec énormément de divination, de dialogue avec les morts, etc. Et tout d'un coup, là que Dieu transforme la vie et l'esprit de quelqu'un pour qu'il soit monothéiste, c'est-à-dire qu'il croit en un seul Dieu. Et un seul Dieu qui est saint, qui a donné la vie et qui n'a pas créé la mort ni le péché. Qui ne provoque pas les divisions entre les hommes et le mal entre les hommes. Si le mal vient chez tous les gens de la Grande Babylonie, de la Mésopotamie, il vient de ce que les dieux dans les cieux se battent entre eux, se querellent, et sur terre, ils habitent des hommes qui se querellent entre eux. C'est une idée que Abraham a quitté, a perdu, c'est pour ça, va, quitte ton pays, et surtout, quitte tout ce que tu as appris dans ton pays. Et il faut faire attention à nous, c'est un enseignement extrêmement profond, il faut apprendre à quitter les idées préconçues, les choses apprises petit, si elles ne viennent pas de Dieu. Il faut apprendre à les mettre de côté. Ok ? Donc, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père, c'est-à-dire, quitte tes racines. Et sois absolument en face de moi, sois avec moi. Sois avec moi pour avoir une relation avec moi. C'est important, hein ? Et je vais te donner un autre pays. Quand on regarde au niveau historique, énormément, des centaines de milliers de gens partaient de tous les pays et arrivaient en Mésopotamie, parce que c'était la richesse. Comme aujourd'hui, beaucoup de réfugiés veulent arriver en Europe ou aux États-Unis, et à cette époque-là, on arrivait dans la Mésopotamie. Or, voilà ce qui se passe, Abraham fait le mouvement contraire, c'est une exception, il part de la région, je dirais, pleine de richesses, de prospérité, mais aussi de démons, de corruption, il part vers, en suivant l'Euphrate, vers le nord, en Syrie, à la limite de la Turquie actuellement, à Charan, et puis là, il abandonne son père et son oncle, etc., il continue avec sa femme et son neveu vers les déserts de Judée, vers Beersheba, et donc il va dans une région beaucoup plus pauvre, et il vit là, spirituellement, beaucoup plus riche qu'avant. Ça, c'est une leçon pour nous. Il vit avec son Dieu vivant, son Dieu invisible, qui est esprit, mais il vit et il a la foi dans la résurrection, et il a aussi la foi dans la miséricorde de Dieu pour tous les pécheurs. C'est extrêmement important. Il a la foi dans un Dieu qui pardonne le péché et qui est absous. Il regarde plus sur le péché, il déclare la personne juste, c'est-à-dire justifiée, pardonnée. Ça, c'est quelque chose de nouveau, Et il n'y a pas besoin de sacrifice humain, il n'y a pas besoin d'offrande, il n'y a pas besoin d'aller tuer les autres, en faire des sacrifices humains pour apaiser la colère de Dieu. Dieu, dans sa justice, dans sa sainteté, peut pardonner lui-même. Ça, c'est fort important. Alors, on va voir d'autres versets, bien sûr, qui expliquent cela. Mais n'oubliez pas, c'est la base. C'est la base. Si vous n'avez pas cette base-là pour comprendre Abraham, c'est foutu. C'est clair que ça n'ira jamais pour comprendre Abraham. Alors, je vois qu'il me manque une feuille dans toutes mes notes. C'est pas grave, c'est pas grave. Les notes. Alors, il y a reçu une promesse extrêmement importante qui est double. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Tu seras une source de bénédiction. Donc, il va y avoir une population importante qui va descendre d'Abraham. Eh bien, c'est qui ? Par Ismaël, c'est les Arabes. Par Isaac, c'est les Juifs. Bien sûr, la population arabe est beaucoup plus importante. Il y a 18,5 millions de Juifs sur Terre, mais il y a des centaines de millions de descendants d'Ismaël. Alors, au moins des dizaines de millions, en tout cas. Et pratiquement, la grande nation, ben c'est déjà fait. Hein. C'est déjà fait. Je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Donc, c'est toutes ces personnes, qu'elles soient juives ou musulmanes, croient en un seul Dieu et croient dans un jugement sur le péché des hommes. Hein. Et elles croient qu'il faut le pardon de Dieu, il faut une grâce pour être acceptable auprès de Dieu. D'un côté comme de l'autre. Vous savez, je fréquente souvent des musulmans, ils ont un grand sens de Dieu. C'est beaucoup plus facile pour moi d'aborder la question de Dieu avec des musulmans qu'avec les Européens classiques. Parce qu'ils ont déjà... ils sont pieux. Ils sont pieux. Beaucoup vont à la mosquée, etc. Ils sont pieux. Et ils savent que Dieu doit avoir une grande place dans leur vie. Même s'ils ne connaissent pas Jésus, ils sont... le regard tourné vers Dieu. Alors, au verset 3, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, toute la famille de la terre seront bénies en toi. Là, c'est une deuxième promesse. Il ne s'agit pas de descendance charnelle, il s'agit d'une bénédiction sur toutes les familles de la terre. C'est extrêmement important que vous compreniez, au-delà des descendances physiques, génétique, il y a une bénédiction sur toutes les familles de la terre à travers Abraham. Bon, ça c'est il y a donc deux promesses. Il y en a des autres, hein, il y a la promesse de la terre. Si vous regardez au chapitre 13, chapitre 13, verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, lève les yeux du lieu où tu es. Regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Donc ça, c'est évident que ça rejoint la première promesse. Hein? En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Donc, la descendance, la terre, mais d'autre côté, une bénédiction qui dépasse tous les problèmes matériels de la descendance et de la possession d'un territoire, c'est toutes les familles de la terre. Et en ça, c'est tout à fait différent. Nous sommes dans ces familles de la terre qui ont été bénies en Abraham. Alors, c'est un païen venu de Mésopotamie, Abraham. Et Dieu se révèle à lui. Comprenez bien que Dieu peut se révéler à qui il veut. Moi, j'ai connu ça avec plusieurs fois dans ma vie. J'ai rencontré des gens qui venaient ici, chez moi, chez nous, parce que Dieu leur avait fait des signes, leur avait parlé. Et ça se passe en général chez des musulmans, figurez-vous. Et ils ont des signes, ils ont des songes, des avertissements, et ils viennent me demander qu'est-ce que ça veut dire. Et là, déjà, en connaissant la Bible, je peux les orienter et leur montrer que Dieu est en train de les appeler. Je vous donne un exemple. Un musulman d'un certain âge, déjà 70 ans, me dit « C'est bizarre, toute la nuit, je rêve, je vois passer Jésus, je ne vois jamais son visage, et il tire une petite charrette derrière lui. Mais toute la nuit, je le vois. » Alors, je ne comprends pas, pasteur. Donc, quelqu'un qui avait fait des tas de kilomètres. Ben, je dis « Tu as le choix, tu montes sur la charrette ou tu restes à côté. » Qu'est-ce que vous voulez que j'aille dire plus? Si je dis plus, il va tout de suite attraper des boutons. Et pourquoi? Parce qu'il y a des tas d'enseignements dans l'islam qui sont contre le christianisme, où on dit que les juifs et les chrétiens ont déformé la révélation de Dieu. Hein? Donc, je sais prendre le temps qu'il faut pour amener la personne. Aller trop vite? Non, merci pour moi. Aller trop lentement, c'est pas bon non plus. En tout cas, il avait le choix. Quelqu'un d'autre vient, il fait plusieurs centaines de kilomètres, il me dit, pasteur, j'ai des rêves, je vois quelqu'un qui va tyranniser le monde, qui va diriger le monde, et c'est pour bientôt. Est-ce que c'est... Et quand est-ce que Jésus va revenir? Parce que dans le Coran, ben, bien sûr, on parle du retour de Jésus. Et qu'est-ce que je dois penser? Je dis oui, l'Antichrist est annoncé dans la Bible, il vient quelques années avant la venue de Jésus, et il va diriger le monde pour sa perte totale. Mais ceux qui sont à Jésus seront préservés de cet homme, de cet Antichrist, qui sera extrêmement puissant, qui va vouloir détruire l'humanité. Alors, il voulait savoir ça, il est reparti. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Il faut avoir beaucoup de patience. Et plus tard, j'ai entendu dans sa bouche, j'aime bien venir ici parce que c'est ma famille. Donc, vous voyez, Dieu fait des choses dans le cœur de la personne qui ne sont pas mon œuvre ni votre œuvre. C'est Dieu qui se révèle. On peut comprendre que Abraham ait reçu des révélations et soit travaillé par la grâce. Que le Dieu Tout-Puissant puisse parler. Eh bien, dans la vie d'Abraham, quelqu'un d'autre, qui est un Cananéen, qui habite dans la terre où Abraham arrive, un Cananéen, donc quelqu'un qui a des divinités, des statues, tout ça, tout d'un coup, il n'est pas comme les autres. Et ça, c'est dans Genèse 14. Regardez bien, Genèse chapitre 14, au verset 18. Melchisédek, roi de Salem, donc c'est... futur, l'endroit où sera la ville de Jérusalem, fit apporter du pain et du vin. Donc quelqu'un qui vient de Jérusalem avec du pain et du vin, pensez aussi à Jésus, hein, le pain et le vin avant la passion, sa mort à la croix. Il était prêtre du Dieu très haut, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Or, on donne la dîme à Dieu. Hein? Bon, pratiquement ce qui se passe, c'est évident, voilà, quelqu'un qui est censé être un païen, qui est dans une terre païenne, et il est en relation avec Dieu, et en plus, il est prêtre de Dieu, prêtre du Très-Haut, il a la capacité, il a reçu ce don, de pouvoir prier Dieu directement, de s'adresser à Dieu, et de prier pour les pécheurs, prier pour lui et pour les pécheurs. Melchisédek, Sédek, Sadok, ça veut dire sainteté, il est saint, et en même temps, Melchior, Melki, hein, c'est le roi. Il est roi de sainteté, et il est prêtre du Dieu Tout-Puissant. Et il est roi de Salem. Salem, Shalom, c'est la paix. Donc, vous imaginez quel personnage est là? Il était fabriqué où? Donc, Dieu, dans la population des Cananéens, a forgé quelqu'un dans une foi exceptionnelle. Exceptionnelle. Si vous prenez le psaume 76, 76, vous allez voir, hein, c'est évident que j'essaie de vous éclairer sur la nature même de l'autorité de la parole de Dieu. Je prends des raccourcis, mais ce n'est pas parce que je les prends habituellement. Je lis, j'observe, j'écoute la parole de Dieu. Et puis, je prends des raccourcis pour pouvoir la prêcher. Le psaume 76, 76, c'est écrit en l'an 1000 avant Jésus. Donc, ce n'est pas Abraham. ce n'est pas au temps d'Abraham. Abraham, c'est 21 siècles, 2100 ans avant Jésus. 21 siècles avant. Ici, c'est 10 siècles avant. Dieu est connu en Juda. Son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem, sa demeure à Sion. Salem, c'est Jérusalem, ville de la paix. Sion, c'est le nom de Jérusalem aussi. C'est là qu'il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée, les armes de guerre. Donc, il y a destiné à Jérusalem, c'est de briser les puissances guerrières de ce monde et d'établir la paix. Alors, qu'est-ce que David dit? Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes des ravisseurs, donc les pays des ravisseurs. Alors, verset 8. Tu es redoutable, ô toi, qui peut te résister quand ta colère éclate? Du haut des cieux, tu as proclamé ta sentence, la terre effrayée s'est tenue tranquille. Lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les malheureux de la terre. Alors, lisez bien ce psaume, méditez-le, hein? Moi je ne peux pas tout lire, je vous lance des pistes, il faut les épuiser vous-même, hein? Il faut aller jusqu'au bout. Verset 13, il abat l'orgueil des princes, il est redoutable au roi de la terre. Donc, ce Melchisédek est quelqu'un qui annonce une victoire de Dieu sur le péché, l'injustice et les guerres, les massacres, les viols de cette terre. C'est quelqu'un qui vient au devant d'Abraham et qui a cette connaissance. Bon, quand vous voyez David qui reçoit une telle révélation, c'est impossible qu'il l'ait imaginé. Impossible. Prenez le psaume 87, c'est toujours de David en l'an 1000. C'est pour vous dire que la Bible est le fruit de la révélation. Dieu s'est révélé un Irakien, Abraham, Dieu s'est révélé un Cananéen de la ville de Jérusalem avant qu'elle soit juive, avant qu'elle soit dans les mains des Hébreux, à Melchisédek, et il se révèle aussi à David, qui n'était pas toujours un petit saint, hein? Mais il a été choisi par Dieu, il était berger. Hein, sa vie n'a pas toujours été éloquente, et pourtant Dieu a transformé la vie de tous ces gens, Dieu a le pouvoir de se révéler, en même temps de sanctifier, de sauver le pécheur et de transformer sa vie. C'est ça le Dieu de la Bible. Psaume 87, c'est en parlant de Jérusalem, hein, elle est fondée sur les montagnes saintes, l'Éternel aime les portes de Sion, Jérusalem, plus que toutes les demeures de Jacob, donc toutes les autres localités du peuple juif, hébreu. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie, c'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion il est dit, tous y sont nés, c'est le Très-Haut qui l'a fermé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Qu'est-ce que c'est? C'est le renouvellement de l'humanité qui est programmé par Dieu, dès la révélation faite à Abraham, à Melchisédek, à David, etc. La Bible n'est pas un roman, n'est pas une histoire de Blanche-Neige, c'est le plan de l'histoire humaine, c'est le plan de l'univers qui est décrit. Le programme de Dieu, il est fait, mais il le décrit dans sa Bible. Il le révèle à des hommes et à des femmes qui l'ont mis par écrit pour nous. Parce que Dieu leur a demandé de le mettre par écrit pour nous. Pourquoi? Pour que notre vie ne soit pas comme un petit bouchon qui flotte sur l'eau, si la rivière coule à gauche, à droite, on va à gauche, on va à droite. Si on a un petit morceau de paille, là, il y a du vent, on tourne en rond, puis on est chassé bien loin. Non, ce n'est pas ça la vie de l'homme. Nous avons une vie qui est sincère dans un plan divin, dans une histoire révélée. Même si ça apparaît mystérieux, c'est comme ça. Alors, retournons à Genèse. Je voudrais bien trouver le verset où il a pardonné ses péchés, mais bon, il me manque une feuille dans mes notes. Ça m'aide parfois les notes, mais c'est pas grave, je connais ma Bible sans les notes. Alors, au chapitre 15, oui, voilà, au verset 6, je reprendrai à partir du verset 4. Genèse 15, verset 4 à 6. La parole éternelle lui fut adressée ainsi. Abraham, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira, en parlant d'Ismaël, hein, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier, donc Isaac. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. La postérité d'Abraham est extrêmement nombreuse, évident. Et puis après, à la fin du verset, il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec la postérité. Faites bien attention, ça nous concerne tous. Et ça concerne toutes les familles des nations. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. En hébreu, ces mots-là ont une connotation juridique. C'est, on dit en français, je ne sais pas dans d'autres langues comment on dirait, forensique, c'est un terme forensique. C'est-à-dire que Dieu a l'autorité de liquider un dossier où quelqu'un est accusé, de le déchirer, de le jeter, et de déclarer la personne innocente. Un bandit sur la croix, à côté de Jésus, oui, aujourd'hui tu seras dans mon paradis. Ça, c'est la capacité même de Jésus de pardonner et de donner la place auprès de Dieu. C'est ça qui a été fait pour Abraham. Lui imputa sa justice. À cause de quoi? La confiance, la foi. Mais comment Abraham a-t-il eu la foi? Eh bien, quand vous allez dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, la foi est un don de Dieu afin que nul de nous ne se glorifie. Ma dermatologue, hein, parce que je dois être surveillé, petite tache cancéreuse à droite et gauche, bon. Vous savez, on meurt pour quelque chose, moi je n'ai pas peur de tout ça. C'est pratiquement, à un moment donné, je lui dis que Dieu vous bénisse en quittant. Ah, vous avez la foi, et puis elle me dit, elle était toute contente. Vous savez, dans tous mes clients, sont rares ceux qui ont la foi. C'est une chance formidable, les personnes qui ont la foi, qu'elle me dit. Et pourtant, business, hein, c'est un métier qui tourne bien pour elle. Hein, elle reçoit beaucoup de monde et ça manque, hein. Mais elle sait qu'il y a autre chose que l'argent, autre chose que sa famille. Son mari aussi s'occupe des cancéreux, donc ils ont de bonnes payes, mais les temps prend beaucoup. Ce qu'il y a, qu'est-ce qui compte pour elle? Au-delà de son métier, qu'elle aime bien, de ses passions et de sa famille, c'est quand même qu'elle voit, un peu comme elle est dans un sous-marin, elle a un périscope, elle voit au-dessus de la surface de l'eau, elle voit qu'il y a quelque chose de mieux. Mais elle ne le connaît pas encore vraiment. Alors je lui ai donné un psaume à lire, je lui ai donné un petit Nouveau Testament avec des psaumes, et elle m'a dit, je les ai lus. Bon, pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle passe d'un monde à un autre monde. Ce monde où elle ne voit pas où elle va, elle doit savoir où elle va, quel est le plan de Dieu sur elle. Et aujourd'hui, si j'ouvre la parole d'Abraham, c'est pour vous dire quel est le plan de Dieu sur chacun de vous et de moi, et de tous les humains. Ici, on voit que Dieu peut donner la foi à quelqu'un, il eut confiance à l'Éternel, qu'il lui imputa justice, c'est-à-dire qu'il lui donne par gratuité, par miséricorde, une position de juste, c'est-à-dire il n'est plus accusable, il ne regarde plus au péché de la personne, il la considère comme justifiée, c'est-à-dire pardonnée, et acceptable à ses yeux. Sauvée, si vous voulez. Ça, c'est un verset qui est dans l'Épître aux Romains, Galates, etc., qui est repris par Paul. Il est extrêmement important de comprendre que la bénédiction sur toutes les familles des nations, c'est comme ce verset. La bénédiction n'est pas génétique, elle est spirituelle, d'abord. Donc, Abraham a reçu deux promesses, enfin même d'autres, hein, la terre, etc., mais cette promesse est d'abord de celle du salut par la foi. Si vous avez compris ça, la Bible prend toute sa lumière. Toute sa lumière. Il y a évidemment des cadeaux qui sont faits à Abraham. Il voit le Christ, il voit Jésus. Hein, au chapitre 18, quand les trois anges apparaissent, il y a l'ange éternel. Et ça, c'est le Christ, l'ange éternel. D'ailleurs, il va intercéder tout près de l'ange éternel pour épargner des gens à Sodome et Gomorre, comme on intercède auprès de Dieu. Il a vu Dieu sous la forme de l'ange éternel, comme Moïse dans le buisson ardent. Et pratiquement, il a quand même une visitation, une théophanie de Dieu pour lui. Pourquoi? Pour en faire un opportuniste, un privilégié, un moi-je? Non, pas du tout. Un vrai serviteur de la révélation, oui. Et c'est quelqu'un de qui a eu tellement de cadeaux qu'il a envie d'en faire un à Dieu aussi. Et il veut offrir son fils. Et son fils est d'accord. Il a tellement reçu de cadeaux de Dieu, le salut, la terre, une foi entière, des contacts directs avec Dieu, qu'il voit que tout est à Dieu. Donc, même son fils, Isaac, est à Dieu, comme lui est à Dieu. Et s'il pouvait arrêter ce mal sur la terre, s'il pouvait payer la dette des hommes, il le ferait. Eh bien, et au chapitre 22, il est évidemment convaincu qu'il faut offrir son fils. Mais ce qu'il y a, vous devez vous rendre compte que dans la conversation qui se passe, il y a quelque chose qui s'est mélangé entre l'image du fils pour le sacrifice et quelqu'un d'autre. Alors, chapitre 22, verset 3, Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac, il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit, donc dans le pays de Morija. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, nous reviendrons auprès de vous. Prenez bien clairement le pouls, la température, hein, comme dans un hôpital pour voir comment quelqu'un se porte. Abraham n'est pas en train de mentir à ses serviteurs en disant « je reviendrai tout seul ». Non, nous reviendrons. Pourquoi ? Parce que dans Hébreux chapitre 11, il est mis clairement qu'Abraham croyait à la résurrection. Donc, en croyant au chapitre 11, en croyant à la résurrection, Abraham savait que même en offrant son fils, il ressusciterait. C'est la même chose pour Dieu. Quand Dieu offre Jésus au même endroit, à Morija, il offre son fils Jésus sur la croix pour nos péchés, Dieu sait qu'il va le ressusciter. Et le fils le sait aussi. Quand, vous voyez le parallèle, hein? Ça, c'est extrêmement important. Alors, regardez bien. Donc, il n'a pas menti aux serviteurs. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, donc il est costaud, c'est pas un gamin, c'est peut-être quelqu'un de 20 ans, 18 ans, 22 ans, je sais pas, porta dans sa main le feu et le couteau, donc un pot en terre cuite, avec les braises, un peu de cendre dessus, un couvercle, et voilà, on a du feu pour faire l'holocauste. Ils marchèrent tous deux ensemble, alors Isaac, parlant à Abraham, son père dit, mon père, répondit, me voici mon fils. Isaac, donc ils ont vraiment une bonne relation, Isaac, repris, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoit lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Ils marchèrent tous deux ensemble. S'il y a un agneau, pourquoi est-ce qu'il y a un agneau pour l'holocauste, pour les sacrifices des péchés ? Parce que quand Adam et Ève ont péché, les amis, Adam et Ève ont péché, après, Dieu a pris un agneau que lui-même il a sacrifié, il a mis la peau de l'agneau sur Adam et Ève. Dans Romains chapitre 5, verset 14, on voit que la marque de Christ, du sacrifice de Christ, est sur Adam et Ève. Donc il y a une promesse faite à Adam et Ève, que pour eux et pour leur descendance, le Christ viendrait mourir pour racheter leur effroyable péché, qui va mettre un désordre dans leur vie, et un désordre dans leurs enfants et dans toute la postérité. Il fallait ce sacrifice. Et regardez bien, Abel continue ce qu'il a vu faire par Dieu avec son papa et sa maman, il offre un agneau. Tandis que Caïn, lui, ne continue pas. Caïn dit, moi j'offre quelque chose à Dieu par moi-même, je n'ai pas besoin du sacrifice de Christ, on peut gagner sa place au paradis par ses mérites. Donc je vais être un homme bien, je vais faire ci, je vais faire ça, et Dieu m'acceptera et il me sauvera. C'est l'histoire de la religion. Et de l'autre côté, avec Abel, c'est l'histoire de la grâce, du pardon des péchés par grâce, où la religion n'a rien à gagner. L'homme a tout à recevoir, mais la religion ne sauve pas. Les sacrifices et les mérites ne sauvent pas. Et ça, c'est la clé. Quand Abraham et son fils montent au pays de Morija pour le sacrifice, ils savent que Dieu avait enseigné qu'il y aura un sacrifice de l'agneau. Mais, avec le temps et les siècles, tout se mélange. Alors, est-ce qu'ils vont opter par le sacrifice par leur propre mérite, Donc à un moment donné, Isaac, je suis d'accord de mourir, Abraham, je vais te sacrifier, on va sauver le monde comme ça. Vous voyez le débat. Le débat est entre ce que je veux, je peux mériter, et ce que Dieu a mérité pour moi. Et qu'est-ce qu'il va gagner dans tout ce contexte? Eh bien, regardez bien, au chapitre 22, verset 8, « Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Comme pour Adam et Ève, comme pour Abel. Donc, la clé d'Abraham, c'est le sacrifice de l'agneau. Et, regardez bien, plus tard, à un moment donné, alors qu'il était sur le point de sacrifier son fils avec son accord, regardez bien, au verset 12, « N'avance pas ta main. » Donc, chapitre 22, verset 12, « N'avance pas ta main sur l'enfant. » Pourtant, c'est déjà un costaud, hein, l'enfant, hein, c'est plus un gogosse. « Et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique fils. » Abraham leva les yeux, vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh, c'est-à-dire à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est Dieu lui-même qui pourvoira, qui donnera son fils, Jésus, un être sans péché, et qui le ressuscitera. Et comme pour les serviteurs d'Abraham, Jésus retourne vers ses disciples. Après, ressuscité. C'est lui qui va retrouver Pierre, Jean, etc. Dieu n'est pas un menteur. Il a donné la vie, il ne la reprend pas. C'est le péché qui a amené la mort. C'est Satan qui est voleur. Mais Dieu n'est pas un menteur, il donne la vie. Et avec Abraham, nous sommes certains, c'est le Dieu de la vie. C'est le Dieu du salut. C'est le Dieu de l'amour de l'homme qui se sacrifie lui-même pour sauver l'homme. Et Dieu n'a pas besoin de nos mérites. Il n'a pas besoin de nos qualifications pour nous sauver. Il veut nous donner la foi. Est-ce que tu crois que je peux te pardonner tes péchés? Est-ce que tu crois que je peux te prendre comme enfant? Dis-moi-le. Est-ce que tu crois que je suis le Dieu de la vie et que je suis là, je suis ton père? C'est tout cela que Dieu attend. Oui. Le fils, la fille doit retourner vers son papa. C'est simplement ça. Et le bastringue général de la religion n'intéresse pas Dieu. Seulement sa grâce et la gloire de sa grâce suffisent. C'est tellement difficile à comprendre. Regardez, Éphésiens chapitre 1. C'est tellement difficile à comprendre. Notre raisonnement humain est tellement devenu compliqué suite à l'effet du péché. Éphésiens. Chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ça, Abraham l'avait compris. Ça, Melchisédek l'avait compris. Ça, David l'avait compris. Tous ceux qui ont reçu une révélation dans l'Ancien Testament, c'est ça. Hein? On n'a pas la foi pour rester un pécheur. On n'a pas la foi pour rester souillé dans le péché. On a la foi pour être lavé de nos péchés. On a la foi pour que Dieu nous purifie, nous sanctifie. Évidemment, c'est lui qui le fait, c'est pas nous. Alors, au verset 4. « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et répréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Donc, quand Dieu a agi pour appeler au sud de l'Irak Abraham, c'est selon le bon plaisir de sa volonté. Quand il a appelé Melchisédek, un Cananéen, et qu'il en fait un symbole de Christ, une image, un roi de sainteté, un prêtre, il a donné à ses hommes selon son bon plaisir. Dites-vous bien que tout ce qui peut vous enrichir ne peut que devenir que d'une seule source, le bon plaisir de Dieu. Adressez-vous personnellement à votre Seigneur Jésus et demandez-lui des grâces. selon son bon plaisir et sa volonté. Ne croyez pas que notre volonté est si importante que ça. Oui, avec notre volonté, pour rester fidèle aux grâces que Dieu a données, qu'il veut encore donner. Pour rester fidèle. Évidemment, là, nous avons besoin de notre volonté. Alors, verset 7, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. » Donc, le voilà l'agneau au mont Morija, hein, qui a été promis à Abraham. « La rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous. Et s'il a sauvé à la croix, il donne aussi, comme Vincent le disait, toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. » Donc, sa volonté est si inconnue à nous, suite au péché d'Adam et Ève, et à la marque en nous, qu'il nous faut une révélation pour le comprendre. Moi, j'ai vu ça avec un homme qui travaillait avec Kadhafi, qui fondait 450 mosquées par an. Il est venu au Seigneur parce qu'il a vu le Christ une fois, pendant la nuit. C'était un homme qui avait fait l'université wahhabiste en Arabie et qui avait le carnet de chèques de Kadhafi. Un homme extrêmement puissant. Si vous voulez, c'était comme Richelieu à côté de Louis XIV ou Göring à côté d'Hitler. Converti. Converti et en train de servir Dieu dans une ville au Bénin. Humblement. 6000 personnes dans cette église. 51 centres pour drogués, tous tenus par des anciens drogués devenus chrétiens, guéris sans médicaments par la puissance de Dieu. Vous voyez la conversion, la grâce qui a été faite à cet homme. Il y a bien d'autres dans cette église. Tout est grâce. Nous, aujourd'hui en Occident, ouvrons-nous à la grâce de Dieu. Il n'y a rien à recevoir dans ce monde. Rien. C'est vide. C'est congelé. Alors, il y a évidemment des grâces qui nous sont données par Dieu dans Éphésiens chapitre 3. Au chapitre 3, verset 6, je vais commencer au verset... Oui, chapitre 3, verset 3. C'est par révélation que j'ai connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Comme Abraham, comme Melchisédek, comme David, c'est par révélation, cadeau de Dieu, que Paul est devenu un serviteur du plan de Dieu. Hein? Alors, avant, c'était un religieux fanatique. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai eue du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit Saint aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu. Donc, le mystère est pour tous les païens. Est-ce que ce n'est pas la deuxième promesse faite à Abraham ? Toutes les familles de la terre seront bénies. C'est ça que Paul vient de dire. Paul a été évangélisé parce qu'il est convaincu que la deuxième promesse faite à Abraham, c'est une promesse dans laquelle il est un serviteur. Il n'y a pas de chrétien et d'église sans esprit missionnaire. Jésus a dit à tous ses disciples, dans Matthieu 28, 18 à 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à pratiquer tout ce que j'ai prescrit. » Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. J'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Cette promesse-là faisait de tous les chrétiens, dès le départ, des missionnaires. Pourquoi ? Parce que toutes les familles de la terre doivent être bénies en Abraham, dans la foi d'Abraham. C'est le plan que Jésus, ou pour lequel il s'est mis au service. Et il a donné sa vie à la place d'Isaac. Parce que lui, sans péché, sans sacrifice, était meilleur, était saint. Et il y a un mystère à révéler à ceux qui ne le connaissent pas. C'est pour ça que tout chrétien, toute personne qui devient chrétien sur la terre, est un serviteur de ce mystère de Dieu qui doit être révélé aux autres. Pourquoi ? Je me suis posé la question en lisant tout ce texte, mais comment que ça se fait ? Depuis que le Seigneur a parlé à Marie-Hélène et à moi, à 60 km. J'étais au Luxembourg en train de faire des devis pour des chantiers, des maisons et tout ça. Et elle, elle était dans le jardin, qui nous dit la même chose, que je dois tout arrêter pour le servir. C'était tellement clair qu'on a, on s'est mis à prier en haut et on a fait une lettre et j'ai démissionné. Ce n'est pas si simple que ça de démissionner quand on gagne 3000 euros par mois il y a 35 ans. Pas si simple que ça. Et il y avait 35 personnes dans la maison. C'est pas si simple. C'est complètement illogique et impossible humainement. Mais il y avait déjà tellement eu de signes avant qu'on a accepté. Pourquoi ? Parce que le mystère de Dieu doit trouver des servantes et des serviteurs pour qu'il soit annoncé. Jésus revient sur terre quand le message de l'évangile a fait le tour de la terre, de toutes les nations. Quand le message de l'évangile a fait toutes les maisons, toutes les chaumières. Bien sûr, tout le monde n'a pas accepté. Mais toutes les familles de la terre doivent être bénies en Abraham. Elles doivent recevoir l'évangile. En cela, si quelqu'un de vous est appelé à servir le Seigneur, qu'il ne renonce pas. Il est au service de la plus grande cause. La cause de Dieu et la cause du salut des hommes. Mais c'est dur. Je me battais contre ça. Je voulais résister. Il n'y avait pas moyen de résister. Pas moyen. Et franchement, ça a été un cas. Je vois que tous ceux qui se mettent au service de Dieu doivent accepter quelque chose, mission impossible, et qui deviendra possible. Pourquoi est-ce que toutes sortes d'églises ont envoyé de l'argent pour qu'on puisse tenir le coup jusque maintenant? Pourquoi est-ce que les chrétiens ont envoyé même 20 euros, 50 euros, peu importe, même 3 euros? Ce qui est important, c'est de savoir que ça vient de la main de Dieu pour travailler pour la révélation de son mystère du salut auprès des autres. Est-ce que les autres vont accepter? Ça, c'est pas mon problème. Est-ce que Dieu va les amener à accepter? C'est peut-être probable. Pas pour tous les cas, parce qu'il y en a qui se moquent carrément de Dieu. Mais peut-être que 20 ans après, ils acceptent. 30 ans après, moi j'ai déjà eu le cas, hein, où on me rappelait 15 ans, 18 ans après, et qu'on, la personne avait changé totalement d'attitude. Elle ne savait pas me sentir ni me voir. Et après, toutes les semaines, j'étais en train de faire études bibliques et elle appelait des autres personnes à venir. 18 ans après. Il y a un temps de Dieu pour les hommes. Le serviteur ne dirige pas le temps ni les autres. Simplement, il faut qu'il accepte d'être dirigé par Dieu. C'est tout. Si vous avez cela, vous avez la clé de votre vie. Parce que ce n'est pas une question de pasteur, c'est une question de tout croyant, tout chrétien. Alors, Éphésiens chapitre 3, à vous, verset 8, « À moi, qui suis le moindre tous les saints, » ben oui, il en tuait, il tuait des chrétiens, « cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. » Il y a donc une mission importante, c'était celle d'Abraham. Continuer la bénédiction sur toutes les familles, les postérités. Prenons Galate. Avant Éphésiens, il y a Galate, avant. Hein. Alors, mes amis, Galate, c'est pas une Bible, c'est pas un livre, une épître qu'on va lire volontiers, hein, parce que ça a l'air un peu la loi, etc., tout le reste. Mais pourtant, c'est très important. Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, d'abord, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, Paul dit, au verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, donc humainement, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, il s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. » Alors, comment Paul a été crucifié en Christ? Je prends une image toute simple. À partir du moment où quelqu'un, comme Jésus, vous a choisi, à un moment donné, c'est quelque chose de terrible, ça. Moi, je me suis rendu compte de ça. J'ai déjà dit à Jésus, mais j'aurais bien fait, je me serais bien amusé comme tout le monde, j'aurais déconné comme tout le monde. Pourquoi est-ce que tu m'as choisi? Et puis, je demandais pardon après, évidemment. Mais être chrétien, c'est pas toujours marrant. Il faut dire non à beaucoup de choses. Il faut tenir le cap. Il y en a des tentations, on en a des imperfections et tout ça. Et c'est jamais fini, les tentations. Il faut toujours une bataille. Alors, pratiquement, on dira, oh, quand je vois les autres qui se marrent, j'aurais été plus tranquille. Oui, mais ils vont en enfer. Et d'ailleurs, même déjà sur Terre, après un certain nombre d'années, où ils ont fait des idioties à ne pas en finir, ils sont déjà en enfer. Ils n'en sortent plus. Hein? Beaucoup de lamentations, beaucoup d'afflictions. Après 10, 15, 20 ans maximum de fausse liberté. Il y a 20 ou 30 ans d'affliction, de dégringolade. Alors, c'est quoi? C'est ça. Dieu n'a pas un plan pareil. Donc, il faut, quand on est appelé par Dieu, avoir la joie de dire merci. Merci Seigneur, tu as choisi le meilleur chemin pour moi, même s'il n'est pas facile. C'est un chemin étroit, tortueux, avec une petite porte. Mais c'est celui-là le meilleur. Parce que tout le reste, l'avenue est large, la rue est large, et tout le monde s'y engouffre et va à sa perte. Quand j'étais dans une école laïque, je ne suis pas né dans un bénitier. Mes parents n'avaient pas la foi. Et pratiquement, j'allais à l'école laïque, et puis après à l'école normale pour être prof, laïque. Mais c'était tout contre Dieu tout le temps. Mais moi, je cherchais, j'aimais Dieu. Et j'ai vu tellement de copains et copines déconner avec leur corps, déconner avec l'alcool et tout le reste. Moi, je ne voulais pas. Je savais qu'ils allaient à leur perte. Je ne voulais pas aller dans la perte, dans ça. Eh bien, pratiquement, c'est dur d'être chrétien. Eh bien, quand Jésus, j'ai lu l'évangile à 16 ans, Jésus me dit dans sa parole, celui qui me donne sa vie la sauvera. Celui qui veut la conserver pour lui-même la perdra. Tiens, ça a été un tournant pour moi. Après, je pétais la forme. Je pète toujours la forme. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Vraiment, j'ai accepté cette parole. Et le Saint-Esprit est venu. Sans trop que je comprenne. Hein. On ne comprend pas grand-chose. On avance. Il faut des années pour comprendre. Mais en attendant, si j'ai donné ma vie à Jésus, je suis dans sa main. Il le dit. Nul ne vous ravira de ma main. Mais quand il va à la croix, il est sur la croix. Le clou traverse sa main, et moi avec. Il traverse le bonhomme qui est dans la main de Jésus, ou la fille, la femme. J'ai été crucifié en Christ. Tout ce qui vient d'Adam et Ève doit être crucifié. Tout ce qui vient de la résurrection de Jésus doit être en moi. C'est simple et c'est clair. C'est pour ça que Paul parle comme cela. Donc, le sacrifice sur le mont Morija est une clé de l'histoire de l'humanité. C'est là que ça s'est joué, l'avenir. Moi, quand j'étais à Jérusalem, j'avais 60 ans. Je n'étais jamais monté dans un tas de ferraille qu'on appelle un avion. Et je n'y monterai jamais. Ces bazars-là, une fois qu'il y a un accident, c'est tout ou rien, on n'en sort pas. En voiture, j'ai déjà échappé souvent, mais là, pour finir, j'avais tellement soif d'aller voir le tombeau de Jésus, le mont Morija et tout le reste. Allez, go, je pars. Virton, Bruxelles, TGV, Roissy-Charles de Gaulle, me voilà. Je vois Tour Eiffel en 2-3 minutes. Ouh. Les gros aspirateurs à fond, ça monte. 6 heures d'avion, Tel Aviv, et il y avait des amis qui m'attendaient là-bas. Le lendemain, j'avais une patience de voir le tombeau de Jésus et le Golgotha. Et je suis resté 2-3 heures. Quand j'ai vu le Golgotha, je me suis mis à genoux, Seigneur. J'étais en train de pleurer. En disant, Seigneur, moi je ne serais pas mort pour toutes les crapules qu'il y a sur la terre. Pour tous ceux qui m'ont fait des vacheries. Peut-être bien pour 2-3 de ma famille, ou des amis. Mais c'est impossible pour moi de mourir pour un tel et un tel. Et puis je pleurais, je disais, et toi, tu es mort pour tout le monde. Et c'est ici. Et c'était dans un foutu endroit où il n'y avait que des chacals, des chiens, des corbeaux pour manger les corps. Il en était crucifié, l'Empire romain en avait crucifié parfois 2-3 000 par jour. Il les mettait en tas, comme ça. Alors, dans ce lieu lamentable, dans ce trou perdu au bout de la terre, qui n'est pas le plus beau, voilà que le Fils de l'homme, Jésus, meurt pour moi et pour tous les autres. Alors j'ai dit, avant de retourner, je vais passer, laissez-moi tranquille la dernière journée avant de retourner en avion, je vais passer toute ma journée là. J'ai passé 5-6 heures dans le tombeau, et puis après sur un banc devant à lire tous les récits. Même me coucher au soleil et lire ma Bible pour reméditer tout ce que Jésus avait fait, tout ce qui s'était passé là. Et pour moi, c'est là que j'ai ressenti la plus grande des paix. C'est un lieu de paix, parce que c'est le lieu de la victoire de la résurrection. La vieille histoire de l'humanité, bourrée de péchés, qui se termine mal pour le moment, il n'y a plus que le fric qui compte. Beaucoup de choses contre Dieu, c'est d'injustice, d'inégalité dans le monde, de pollution, etc. Tout cela est condamné à disparaître, et Dieu a le cadeau en Christ de nous faire une nouvelle création. C'est pas Dieu qui détruit la terre. Il n'y a pas besoin de Dieu pour détruire la terre. Les hommes sont assez fous pour le faire dans leur péché. Alors, regardez bien au chapitre 3 de Galates. Verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, c'est-à-dire il a reçu le pardon des péchés, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Donc les amis, vous devez avoir toujours la soif d'évangéliser, la soif de communiquer le salut aux autres. Ça fait partie de la passion d'Abraham, la passion de tous les prophètes, la passion de Jésus. C'est dans l'amour même de Dieu que les hommes soient sauvés. Ok ? Il faut savoir cela. Ces versets-là sont fort importants dans Galates. Il ne faut pas abandonner le plan de Dieu pour le plan du diable qui perd tout le monde. Les amis, il n'y a qu'un seul médiateur. C'est Jésus-Christ entre Dieu et les hommes. Mais il est vivant. Hein? Alors, à quoi a servi la loi ? Regardez dans Galates chapitre 3, verset 24. La loi de Moïse, les commandements, et ils sont saints, ils sont encore bons aujourd'hui, mais ils ne sauvent pas. La loi a été comme un pédagogue, donc comme quelqu'un, une institutrice qui s'occupe des enfants, un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi, donc pardonnés de nos péchés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, baptisés c'est à la croix, hein? Mourir et ressusciter. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. C'est parce qu'on va avoir Pâques. Et il faut quand même mettre Pâques dans la trajectoire du plan de Dieu. Autrement, ça y est, c'est encore un événement religieux, un de plus, un de moins. On l'oubliera comme les autres. Mais si on connaît le plan de Dieu, on n'oublie pas le plan de Dieu. Donc on peut méditer Pâques. On peut méditer, c'est là, Seigneur, que tu as acquis mon salut. Par amour pour moi. C'est là que tu as acquis ma gloire. Parce que ce n'est pas seulement que tu m'as sauvé, mais tu vas me donner la gloire. Tu vas me donner un jour un corps sans péché, sans maladie, sans deuil, sans chagrin. Tu vas me donner une âme qui t'aime pleinement. Hein ? Dans Galates, je vais terminer, mais dans Galates, regardez la foi de Paul. Colossiens plutôt. Chapitre 1, verset 12. Je remarque que je vieillis. Des fois, je pense quelque chose, je dis autre chose. Ouh là là, ça devient grave. Si un jour je dis, Marie-Hélène, je te déteste, alors que je veux dire, je t'aime, ça y est, ça va tourner mal. Si vous arrivez et que je vous tourne le dos et puis que...
Vous avez dit quoi ?
Et puis, ouais, tu ne nous dis plus bonjour. Peut-être que je commence à les aimer, n'en sais rien. Non, mais pratiquement les amis, c'est bizarre les neurones, ça vieillit.
S'il vous plaît.
Colossiens, chapitre 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Rendez grâce. Gardez l'exhortation de Paul. Rendez grâce. Hein? Qui nous a délivré la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Si nous avons cette certitude, nous pouvons méditer dans cette semaine tous les récits de la Passion et de Pâques. Nous, ici, on va faire quelque chose chaque soir en semaine. Si vous êtes chez vous, vous pouvez le faire chez vous. Ce n'est pas forcément qu'il faut faire toujours les kilomètres. Mais il faut savoir, il faut toujours méditer ce que Jésus a fait pour nous et lui rendre gloire au Père. Si aujourd'hui j'ai prêché dans ce sens, c'est pour que vous n'ayez pas une semaine, la semaine sainte, une semaine comme toutes les autres. Vous savez, toutes les semaines, elles s'envolent, ça passe. Pour finir, hein, on vieillit. Mais en attendant, on vit dans la superficialité en face de Dieu qui nous regarde. Ce n'est pas ce qu'il veut. Il faut rendre grâce. Donc, en Jésus, nous avons tout reçu. Tout. Tout reçu. Chapitre 3 de Colossiens. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses en haut. C'est une exhortation. Ne regardez pas toujours à vos petits sous, au portefeuille, au boulot, au train, à l'auto, aux factures, ça y est, facteur égale facture, hein, boîte aux lettres, ça y est. Et puis après quoi? Pratiquement, les amis, bien sûr qu'on doit voir tout ça, mais l'essentiel de notre regard, c'est pas sur la télévision, c'est pas sur Internet, ce n'est pas sur les choses de ce monde. Notre regard doit se pointer en haut. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Pensez aux mains. Hein? Dans les mains de Christ, le clou a traversé. La main et la personne que nous sommes. Quand Christ, notre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Verset 12. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de plainte de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, que cette paix règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Voilà le programme de la semaine sainte. Et quand on l'a vraiment apprécié, eh bien, on essaie de le faire toute l'année. Mais déjà, c'est un minimum. Parce que la semaine sainte, elle n'est pas sous TGV maintenant, dans notre société, avec notre boulot et tout le reste. Ça passe à la machine à laver. Qu'est-ce qu'il en reste? Les amis, prenez ces textes, méditez-les. Les promesses faites à Abraham nous concernent. Elles ont touché des millions de personnes. Où il est le plus difficile d'évangéliser? Au Tchad? En Chine? En Inde? C'est dans nos pays d'Occident, actuellement. Et pourquoi? Pourquoi? On a trahi avec toutes les guerres qu'on a faites, on a trahi. Avec beaucoup de choses, on a trahi. Mais ce qu'il y a, c'est pas... C'est le passé est le passé. Nous avons l'Évangile, nous en parlons de Dieu. Soyons le sel dans la terre, soyons la lumière pour les autres, pas avec orgueil bien sûr, avec amour. Qui veut prier? Au nom de Jésus, bien entendu.